Bonjour à tous. Alors, je vais vous dire là, aujourd'hui, vraiment, j'ai ressenti, depuis samedi d'ailleurs, j'ai ressenti la présence du Seigneur. Parce que, vraiment, on ne se concerte pas. Hein, mais ce que nous a envoyé Lionel samedi sur les greniers de Joseph et ce dernier chant, avant la Sainte Seine, eh bien vraiment, c'est en rapport avec le message d'aujourd'hui. Et je me suis dit vraiment, le Seigneur agit, intervient. Et ça, il est là. Et quand Vincent nous disait qu'il fallait que l'on se laisse toucher par lui, je crois que c'est aujourd'hui. Ça peut se faire, ça doit se faire. Je vais vous parler du besoin, de nos besoins, mais de ceux aussi des autres, de ce dont nous avons besoin. Mais avant tout, je voudrais remettre dans les mains du Seigneur tous nos frères et sœurs, pour quelque raison que ce soit, qui ne peuvent pas être là aujourd'hui, qui ne sont pas là aujourd'hui. Je voudrais, Seigneur, que tu les bénisses, que tu les touches. Nous savons que tu peux le faire à distance, tu es partout. Alors le besoin, je vais donner la définition tout de suite, et vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de... c'est une nécessité. C'est sa définition. Le besoin, c'est une nécessité. C'est le désir de ce dont on ressent la privation. C'est être dans le besoin, c'est être dans le dénuement, c'est dans le manque de nécessaire. Le nécessaire, c'est dont on ne peut se passer. C'est l'essentiel, c'est ce qui est absolument requis pour aboutir à un résultat. On dit avoir besoin, c'est ressentir comme nécessaire, comme utile, indispensable même. Il y a des phrases types que l'on dit, pour les besoins de la cause. Et ça signifie pour servir. Pour les besoins de la cause, c'est pour servir. Subvenir aux besoins de quelqu'un. C'est aussi une phrase que l'on utilise. C'est lui procurer les moyens de vivre. Nous avons besoin, mais les autres ont aussi besoin. Alors, je vais vous apporter un témoignage pour vous expliquer comment j'ai eu le besoin, j'ai ressenti la nécessité de rencontrer Jésus. Je vais vous parler de mon enfance, de mon adolescence. Alors, j'en ai déjà parlé, mais je vais renouveler cela. Certains ne le savent peut-être pas. Je dirais que mon adolescence s'est passée dans la violence. Non pas que j'étais frappé, hein, mais c'est passé dans la violence. Jusque 11 ans, j'ai vécu dans une maison de deux pièces avec mes parents et ma sœur. À quelques mètres de là, il y avait une autre maison. Il n'y avait même pas la distance d'ici à la porte. Hein. Donc on était très proches, il y avait une sorte de promiscuité, on va dire, dans une autre maison qui était en fait une baraque en bois, faite de planches, vivaient ma grand-mère et deux de mes oncles. Dans ces maisons, pas d'eau, pas d'électricité. Le chauffage au charbon. L'hiver, dans la nuit, le poêle s'éteignait. Et pour voir à l'extérieur, il fallait gratter la glace qui était à l'intérieur, qui était dans les carreaux à l'intérieur. Donc il fallait être bien couvert. Hein. quand on dormait. J'ai longtemps porté les vêtements que d'autres personnes donnaient, parce qu'on n'avait pas les moyens, ou peu de moyens, pour en acheter des neufs. Et j'ai été très vite, dès le début où j'ai pu prendre conscience des choses, confronté à l'alcoolisme. Non pas que je buvais, mais j'avais un oncle qui était alcoolique, et j'ai vu la violence de l'alcool. J'ai vu, des fois, quand il se chamaillait, se disputait avec ses frères, ou même avec sa mère, ou avec mes parents, les objets volaient, étaient cassés, il y avait une violence. Je l'ai vu rentrer le soir, et pour arriver aux deux maisons, il y avait une petite pente sur le chemin, s'effondrer dans ce chemin, et rester là à dormir, puis pouvoir se relever. Je vous assure que quand vous êtes enfant, première fois c'est un étonnement, après, parce qu'il pouvait avoir des gestes agressifs aussi. Donc il y avait une violence. J'ai un autre de mes oncles qui, en revenant de la guerre d'Algérie, avait décidé de devenir un marginal. Marginal, ça, pour lui, ça a voulu dire le travail, il en faisait quand il en avait besoin, quand il avait besoin d'argent, mais c'était aussi les vols, les mauvaises fréquentations, les trafics. Ça a été jusque des braquages à main armée. Et bien sûr, il s'est fait arrêter. J'ai vu son arrestation. Une voiture est arrivé, des hommes en sont descendus, mitraillettes au poing. Moi, j'étais dans le jardin, ils m'ont dit, gamin, tu restes là, tu ne bouges pas. Mon oncle a essayé de s'enfuir. Vous savez, la mitraillette, quand on l'arme, c'est pas un jeu, c'est pas comme à la télé. Hein. J'avais pas de télé, de toute façon. Et je peux vous dire, c'est quelque chose de violent. Menotté, arrêté, menotté, projeté dans la voiture, et hop, ils repartent. Mais il y avait quelque chose de... Alors, c'était pas des gendarmes, c'était pas des policiers. Hein. C'était d'anciens soldats qui étaient, missionnés par l'État pour interpeller les gangsters, les personnes dangereuses, armées. Parce que j'ai dit tout à l'heure, mon oncle avait des pistolets et c'est avec ses armes qu'il avait braqué. J'ai vécu son arrestation, où il a fait de la prison. Je peux vous dire que quand vous passez votre enfance dans ce milieu comme ça, je dirais que c'est traumatisant. À l'époque, il n'y avait pas de psychologue hein, pour nous assister. Il faut vivre ça. Il faut être solide. Ça marque quand même. Je me souviens que, à sa sortie de prison, il vivait toujours dans la maison à côté avec ma grand-mère. On le voyait de temps en temps. Et un soir, ma grand-mère est arrivée, appelant mon père, en disant « Il y a des types qui sont rentrés, ils sont en train de le tabasser. » C'était un règlement de compte, en fait. Et mon père est sorti et s'est battu avec ces hommes qui venaient tabasser mon oncle. Il ne cherchait pas à comprendre qui avait raison, qui avait tort. Donc il s'est battu avec, et ils étaient plus nombreux. Donc au bout d'un moment, je l'entends encore crier « Va chercher le fusil, va chercher le fusil !» Et ma mère, avec une... Elle m'a dit après, j'avais la trouille de ma vie, parce que j'avais peur que tu prennes le fusil et que tu sortes pour tirer sur ces hommes. J'avais 9 ans. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Quand ils ont entendu ça, ils se sont enfuis. Alors c'est vrai que j'étais entouré, il y avait peu d'enfants, d'ados de mon âge, donc j'étais entouré par d'autres ados plus âgés, et je pense que je peux le dire, j'avais une mauvaise fréquentation. J'avais une mauvaise fréquentation, Avec eux, j'ai commis des larcins, entré par effraction dans des maisons. Bon, voilà. Je m'en glorifie pas. À 11-12 ans, je suis arrivé chez ma grand-mère et j'ai vu un de mes oncles qui voulait taper ma grand-mère et ma mère. Et je suis arrivé, j'avais 11 ans, 11-12 ans, oui. Je suis arrivé et je l'ai déjà expliqué, j'ai frappé cet homme. Pour moi, ce n'était plus mon oncle. Je l'ai frappé avec une telle violence qu'il est tombé par terre, presque KO. Bon, par la suite, il m'a menacé de mort. Il m'a dit, on va se retrouver, j'aurai un couteau dans la poche et je vais te tuer. Quand vous avez 11 ans, ça marque. Comme mes parents voyaient que je tournais mal, à côté de chez nous, certains d'entre vous le connaissent, il y avait Harley Smith, un pasteur, qui a créé un club de jeunes, parce que je n'étais pas le seul à vivre cette violence, a créé un club de jeunes et on s'y rendait le samedi. Là aussi, j'étais confronté à la violence, puisqu'un de nos copains, qui avait une moto, on l'a vu un samedi, nous a dit au revoir, le samedi d'après, il n'était plus là. Il a été renversé par une... Je ne sais plus si c'est lui qui doublait une voiture en haut d'une côte ou si c'est une voiture qui doublait une autre voiture. Il a été percuté, il a été tué sur le coup. Et là, d'un seul coup, on prend conscience, j'ai pris conscience que on vit, mais on peut mourir l'instant d'après. Et je me suis dit, ma vie, ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être cette violence. Ça peut pas être... Non, c'est pas possible. Et je me souviens, ce samedi soir, j'avais 15 ans, j'ai fait le pas vers le Seigneur. Je l'ai rencontré. J'ai ressenti le besoin, la nécessité de le rencontrer. Et je vais vous dire, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Mes fréquentations n'étaient plus les mêmes. Je n'ai plus volé. Quand il y avait des conflits, je préférais, négocier. Parce que je me dis, si on en vient aux mains, je peux tuer, mais je peux être tué aussi. Un jour ou l'autre, on tombe sur quelqu'un de plus fort. Il ne faut pas l'oublier. Oui, je me suis rendu compte de la précarité de la vie et j'ai eu ce besoin, cette nécessité de faire le pas vers Jésus. Je voudrais qu'on lise ensemble le passage qui est dans Luc 9, verset 11, pardon. Les foules s'en aperçurent et le suivirent. Jésus les accueillit. C'est ce qu'il a fait pour moi. Et il leur parlait du royaume de Dieu. C'est ce qu'il a fait pour moi. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin de guérison. Je pense que j'étais un grand malade. Et j'avais besoin de guérison. Il me l'a apporté. Merci Seigneur. J'avais 20 ans et mon père est décédé. J'ai dû trouver un travail, en partie pour subvenir aux besoins de ma mère et de ma sœur qui étaient mineures. Or, j'étais un temps fonctionnaire, ça ne me plaisait pas trop. Après, je suis devenu démarcheur en immobilier. Et là, j'ai été confronté à une autre violence. Pas forcément sur moi, pratiquement jamais sur moi. Mais j'ai vu le monde extérieur, le monde caché, parce que quand on est agent immobilier, on rentre dans l'intimité des personnes. On voit des choses qui sont cachées. On est chez eux. On sait pourquoi ils vendent, on sait pourquoi ils achètent, on sait plein de choses. Donc j'ai été confronté aux conflits familiaux, les divorces, à l'inceste, Vous entrez dans une maison et vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Et après, j'apprenais que le papa était en prison parce qu'il avait abusé des enfants et que la maison était vendue parce que la famille ne pouvait plus rester, plus subvenir à tout cela. Vous savez, c'est violent, ça. Vous entrez dans une maison et puis vous sentez qu'il y a quelque chose qui est... Il y a une violence et puis vous apprenez qu'une personne a été assassinée dans cette maison. Ou que la personne s'est suicidée parce qu'elle avait plus d'espoir. C'est violent. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais quand on le ressent, quand on vit comme ça, moi je sais que des fois je rentrais le soir chez moi, j'étais désabusé, j'étais anéanti. Je me disais, c'est pas possible. Que c'est le monde dans lequel on vit, c'est le monde dans lequel beaucoup de personnes vivent. Mais ils ne connaissent pas Jésus. Ils n'ont pas Jésus. Je me disais, pourvu qu'ils ressentent ce besoin de s'approcher de lui, comme moi je l'ai ressenti. Alors c'est vrai que ce travail que j'avais, cette violence que je voyais autour de moi, ça m'a donné envie de me battre, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire, maintenant que j'y réfléchis, je voulais être riche, je voulais gagner de l'argent, j'étais prêt à écraser éventuellement, ce qui était aussi une violence de ma part, des personnes pour pouvoir faire une vente, pouvoir gagner de l'argent. Je rêvais d'avoir une grosse voiture, je rêvais d'avoir une grande maison, je rêvais d'avoir un compte en banque bien rempli, débordant. J'étais prêt à tout. Je me sentais fort. Je me disais, quoi qu'il arrive, je peux régler tout par moi-même. C'est vrai que de temps en temps, quand il y avait vraiment un problème, je me tournais vers Jésus, une petite prière vite fait, comme ça, et puis je repartais d'un pied ferme en me disant, je vais réussir, je suis fort, je vais régler tout ça moi-même. Mais la réalité, c'est tout autre chose. Et la réalité, je l'ai trouvée dans Apocalypse. Apocalypse 3. Apocalypse 3, les versets 17 et 18. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. En fait, essayer de conquérir le monde, mon petit monde, ça mène à rien. On se croit riche, on se croit, mais en fait, ce qui est dit dans ce passage est la vérité. On est malheureux, on est nu. Il faut avoir la force de faire d'avoir cette réflexion, de voir cette réalité. Alors j'ai continué quand même mon chemin avec d'autres façons de travailler, d'autres façons de... Il y a des choses que je ne voulais plus faire. Léser un client, il n'en était pas question pour moi. Ce qui m'a amené à des conflits avec des patrons, enfin bref, ça c'est autre chose. Mais c'était quand même dur. C'était dur pour moi. C'était dur parce que c'est vrai que j'avais fait un pas. J'étais avec le Seigneur, je m'adressais à lui, je pense qu'il me répondait, parfois même sans que je l'entende, et je n'écoutais pas. Et je suis venu, j'ai ressenti à nouveau ce besoin, cette nécessité de me rapprocher du Seigneur. Je suis arrivé à l'église de Persan. Et c'est vrai, je l'ai déjà dit, C'est par mon travail que j'ai re-rencontré Yolande et Jean-Robert. Et c'est par une parole de Jean-Robert que j'ai eu la force et le courage, vraiment, de revenir, de rechercher, de vouloir être touché par le Seigneur. Cette parole, je vais vous la répéter, c'était, je sortais de chez Jean-Robert et Yolande, et Jean-Robert me dit, au fait, t'en es où toi avec le Seigneur ? Waouh ! Boum ! Coup de massue sur la tête, hein, je peux vous dire. Parce qu'on croit, avancer avec le Seigneur, mais des fois, on l'a mis de côté, on l'a laissé derrière nous alors qu'il doit être devant nous. C'est pas évident, hein. Enfin moi, paf, j'ai reçu ça. Et vraiment le passage qui est dans Matthieu 3,14, où Jean-Baptiste dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Il s'adresse à Jésus qui vient pour être baptisé, et Jean-Baptiste lui dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Le baptême, une nouvelle vie, besoin de cette nouvelle vie. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est bon. C'est pas facile hein, quand même, hein, mais c'est bon. En fait, quels sont nos besoins réels ? Le monde qui nous entoure nous incite, nous invite à avoir des besoins. Je disais tout à l'heure, une maison, puis une maison plus grande, plus de vêtements, de plus grandes marques. On ne peut pas les mettre tous en même temps, de toute façon. Avoir une table garnie à l'excès, manger des plats pas forcément meilleur d'ailleurs, parce que des fois je me dis, je me régale avec un steak et des frites et une salade. Hein. Si c'est bien préparé, ça vaut tous les repas. Manger plus que nécessaire. Avoir une, deux, trois voitures, les dernières marques sorties de plus en plus grosses, est-ce que c'est nécessaire ? Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir de voiture, attention, hein. Je dis qu'on doit avoir une voiture neuve qui fonctionne, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de changer ? Je vois de plein de personnes, dès que j'ai une nouvelle voiture, bah, ils changent de voiture, ils en prennent une plus grosse. Est-ce que c'est nécessaire ? Partir en vacances, toujours plus loin, alors que... On a des endroits tout près de chez nous, magnifiques à visiter. C'est bien, les vacances, ça permet de rencontrer d'autres personnes, de voir d'autres choses. Et souvent, on est dans un club ou dans un lieu confiné où on rencontre les mêmes personnes que l'on rencontre tous les jours. Bon. Le matériel informatique, le téléphone, toujours avoir le dernier modèle. Je peux dire que merci, Seigneur, qu'il y ait ça, parce que sinon les prières du mercredi ne seraient pas possibles, et les échanges journaliers entre frères et sœurs ne seraient pas possibles s'il n'y avait pas tout ce système. Merci, mais pas à l'excès. Et bien utilisé. Pas besoin de changer dès qu'il y a un écran un peu plus grand, ça marche. L'électroménager. Vraiment, le monde nous pousse à avoir le dernier truc où on le télécommande depuis chez soi. Bon, c'est vrai que la personne qui est en déplacement, ça peut être utile, mais à l'excès, on peut tout commander de chez soi. J'ai un voisin, il a été cambriolé, il y avait des caméras, il pouvait voir avec son téléphone. Il n'a rien pu faire, mais il a vu les voleurs entrer, il a vu les voleurs fracturer sa maison, prendre ce qu'il y avait de bien, ah oui, il les a vus, c'était bien. Mais le temps qu'ils le préviennent les gendarmes, que les gendarmes se déplacent, bah, le vol était fait. Hein. Donc bon, ok, il l'a payé cher ça. Il l'a payé cher pour l'installation, il l'a payé cher parce qu'on l'a volé. Mais réellement, pour notre survie, pour notre vie, que nous faut-il ? Il y a une chose essentielle. Hein. Il faut de l'air, de l'oxygène pour que l'on puisse respirer. La respiration bah, fait circuler le sang, fait et tout ce qui est en nous, ce que le Seigneur a créé, entre en fonction. S'il n'y a pas d'oxygène, on meurt. Il nous faut quoi ? De l'eau, de la nourriture, des vêtements, un abri. Il faut que l'on dorme aussi. Donc un abri pour dormir, c'est mieux. Alors, je me suis penché là-dessus et je me suis dit, mais est-ce qu'on a des exemples ? Que fait notre Seigneur ? Est-ce qu'il nous donne des exemples ? Ben oui, hein. On le voit entrer dans la maison de Lévi, manger avec lui. On voit qu'il a besoin de nourriture. Marthe lui prépare un repas. Il a besoin de boire. Il s'adresse à la Samaritaine au puits de Jacob. Il a besoin de dormir. Malgré la tempête, il dort dans la barque. Il prend du repos. Mais surtout, de quoi il a eu besoin, notre Seigneur ? Bien, dans les moments difficiles, il s'est isolé et il s'est rapproché du Père, de Dieu, de son Père, de notre Créateur. Lui qui était fils de Dieu, il en a eu le besoin. Il a eu lui-même, vous vous rendez compte ? Or nous, alors, le monde qui nous entoure, avec la publicité, crée en nous des besoins artificiels. Ça crée en nous des besoins artificiels. Et ne pas les obtenir, moi je vois des gens, ah, j'ai pas le dernier ceci, j'ai pas le dernier cela. Et qu'est-ce que ça crée ? Ça crée de l'inquiétude. Et dans Matthieu 6, il y a une réponse, pas que dans Matthieu d'ailleurs, mais Matthieu 6, hop, les pages sont collées. Matthieu 6, les versets 31 à 33. Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus, car cela, ce sont les païens qui le cherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On retrouve aussi un passage semblable, c'est dans Luc 12, les versets 29 à 31. On ne va pas le lire, mais voilà, c'est répété. Luc 12, les versets 29 à 31. Et ce que j'ai lu, c'est dans Matthieu 6, les versets 31 à 33. À 34, pardon. Ce message m'a amené à réfléchir sur le fait de la vie d'un chrétien se décompose de quelle manière. Je pense que la première que j'ai trouvée, c'est la rencontre avec Jésus. Il faut faire ce pas. Alors que l'on est dans... C'est pas facile. On est dans un monde où on crée des besoins, on nous crée des besoins. et faire ce pas vers Jésus, ça peut être compliqué. Il faut le faire. Il faut que ça devienne un besoin, une nécessité pour nous. La deuxième étape, c'est en quelque sorte être ses apprentis, croître dans ses enseignements. C'est ça la deuxième étape. Parce que le rencontrer, c'est ce que j'ai fait au début, moi. Je l'ai rencontré, puis après, ben, voilà. J'essayais pas de grandir, de comprendre, d'apprendre avec lui, de me fier à lui. Et la troisième étape, c'est de mettre ses enseignements en pratique, d'être, tout à l'heure j'ai parlé d'apprenti, d'être un compagnon, d'être un ouvrier accompli. Pour moi, c'est ça la troisième étape. Alors c'est vrai, nous devons apporter la bonne nouvelle. Jésus est mort pour nous, il a pris nos péchés, il est mort sur la croix, il est ressuscité. Jésus nous aime, tous, quoi que l'on ait fait. Il nous aime, mais il faut se tourner vers lui. On va aller dans Matthieu 14. Matthieu 14, le verset 16. Jésus leur répondit, elles n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. C'était le moment de la multiplication des pains. Jésus avait parlé à la foule, et la foule n'avait pas de nourriture. Et elle allait s'éloigner, partir, le ventre vide. Et Jésus dit aux apôtres, donnez-leur vous-même à manger. Nous avons besoin de Jésus, mais nous devons aussi subvenir aux besoins des autres. Dans Éphésiens 4, Éphésiens 4, les versets 27 et 28. Il nous est dit, ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Alors ça me touche vraiment parce que bon, je vous expliquais tout à l'heure ce que j'avais fait quand j'étais plus jeune, travailler honnêtement de ses mains pour donner aux autres. C'est une directive que nous donne le Seigneur. Donner à celui qui est dans le besoin, dans le dénuement. Alors le dénuement, qu'est-ce que c'est? C'est le manque de nécessaire. C'est ne pas avoir le nécessaire, ne pas avoir le minimum. Est-ce que vous croyez qu'il y en a beaucoup autour de nous qui manquent du minimum, qui manquent du nécessaire? Je peux vous dire oui. Eh oui. Ouais. Ouvrons bien les yeux. Prenons du collier. Romains 12, le verset 13. Subvenez aux besoins des saints, tâchez d'exercer l'hospitalité. Subvenez aux besoins des saints, observez l'hospitalité, tâchez, essayez si vous voulez. Nous devons subvenir aux besoins les saints, c'est nous, entre nous, mais aussi auprès des autres. Il ne faut pas que l'on reste là. Un autre passage qui est dans Acte 4. Hop. Ah bah décidément, j'ai du mal avec les pages. Acte 4, versets 32 à 35. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Alors, c'est vrai que ce passage peut déranger, parce qu'on se dit, il faut que l'on vende tout. Je ne sais pas s'il faut appliquer ce passage à la lettre. Mais en tout cas, il faut en tenir compte. Quand on a quelque chose, il faut le partager. C'est important. Je me souviens d'un... Je ne sais plus si c'était un pasteur qui m'avait expliqué que lorsqu'il avait besoin de quelque chose, une voiture, un frigidaire, il s'arrangeait... Des fois, il aurait pu s'acheter une grosse voiture, mais s'en achetait une moins grosse, mais il en achetait deux. Il en donnait une, il en prenait une pour lui, et il donnait l'autre à une personne qui en avait besoin. Il a besoin d'un frigidaire, au lieu de prendre le dernier frigidaire qui vaut je ne sais quoi, il en achetait un, moins important, mais il en achetait deux, et il trouvait une personne qui en avait besoin. Il partageait. Je trouvais ça, je dis, oh là là. Je suis loin de faire ça. Hein. Mais quel exemple. Alors tout dans le passage, là, il est dit qu'il les indigents. Un indigent, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui manque des biens les plus nécessaires. Un indigent, c'est vraiment une personne qui n'a rien. Est-ce que vous avez déjà eu la curiosité d'aller dans des cimetières? Il y a des endroits où il y a des tombes réservées aux indigents. En fait, c'est un lieu où ils sont tous entassés. Pour vous dire comment on traite les indigents dans notre monde. Alors, je vous ai dit que on avait besoin, nous avons des besoins, Dieu y pourvoit, Yahvé Jiré. Il ne faut pas l'oublier, Dieu il sait ce que, dont on a besoin, nous, chrétiens. Nous avons besoin les uns des autres dans les tâches qu'il nous a données d'accomplir, celles de subvenir aux besoins des autres. Nous devons être unis dans cette tâche, et on va voir dans Romains 16 ce qui nous est dit. Romains 16, les versets 1 et 2, tout simplement. Il nous est dit, je vous recommande, Phoebe, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints, mettez-vous à sa disposition pour tout à faire où elle aurait besoin de vous, car elle est venue en aide à beaucoup et aussi à moi-même. Se mettre à la disposition de celui ou celle d'entre nous qui subvient aux besoins des autres. Je sais qu'il y a des personnes dans l'Église qui font des choses, mais ils les gardent pour eux. C'est bien, mais c'est un tort. C'est un tort parce que je vais donner un exemple. Je ne veux pas me mettre en avant, mais on a un frère à Delon qui collecte des vêtements pour les envoyer à Haïti. Et s'il n'en avait pas parlé, moi, il y a des vêtements que j'aurais jetés. Je lui ai donné. Quelque part, je l'ai aidé. Mais s'il n'avait pas parlé, s'il avait fait les choses en secret, sans les dévoiler, bah, il aurait été tout seul. Et là, quelque part, j'ai fait ce que le Seigneur nous dit, d'aider ceux qui aident. Dans 1 Corinthiens, Corinthiens 12, les versets 21 à 25. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si l'on pourvoit aux besoins des autres, dans l'Église, hors de l'Église, peut-on dire de nous ce que Paul a dit aux Philippiens ? Aux Philippiens, dans chapitre 4, verset 16. Vous avez été les seuls à le faire, car à Thessalonique déjà, et à deux reprises, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins, s'aider entre frères. Et je vais vous dire, quand on fait ça, ben, y a une récompense, et on la trouve dans le même chapitre, au verset 19. Où Paul nous dit, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Christ Jésus. » C'est-à-dire que lorsque l'on donne, on reçoit en fait. On va aller dans 2 Corinthiens, chapitre 9, les versets 9, 6 à 12. En fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tout égard de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents, on retrouve ce mot, hein, celui qui est totalement démuni. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tout égard en vue de toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Car le service de cette offrande, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais fait abonder de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Quand on agit de cette manière, c'est Dieu aussi qu'on glorifie. Quelle peut être notre plus grande satisfaction en subvenant aux besoins des autres? On le trouve dans Acte 2, les versets 42 à 47. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple, d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Je pense que c'est ça notre vraie récompense. C'est de voir les personnes qui sont dans le besoin, venir au Seigneur et être sauvés. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Alors, je vais finir par une question qui me touche moi, qui s'adresse aussi à vous. On l'a vu, pour être efficace, le corps doit être complet. S'il nous manque les yeux, ça ne va pas. Si on n'a plus de main, ça ne va pas. On est tous quelque chose. Dans l'Église, dans le corps de Dieu, dans le corps du Seigneur, dans l'Église du Seigneur, on est tous quelque chose. On a tous notre importance. Moi, je me dis, est-ce que le corps, il est complet? Sommes-nous au stade de la rencontre avec Jésus, la première étape? Sommes-nous des apprentis? Sommes-nous devenus des ouvriers qualifiés? Alors, normalement, la rencontre avec Jésus, ça nous amène à la chose suivante. Et on doit être comme ça. Cette rencontre, normalement, implique ce que je vais dire. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné ou comme il vous l'a enseigné. Moi, je crois que, malheureusement, nous nous sommes renfermés sur nous-mêmes. L'Église s'est renfermée sur nous-mêmes. Nous nous sommes recroquevillés. nous sommes rétractés, nous sommes tassés. Dans Hébreux 5, versets 12 à 14, je vous cite beaucoup de passages, hein, mais je pense qu'ils sont nécessaires. Alors que vous deviez, avec le temps, être des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas d'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage ou le sens exercé du discernement du bien ou du mal, ont le sens exercé du discernement du bien ou du mal. J'ai eu du mal à mettre ce passage parce que je me dis, on croit connaître plein de choses, on se dit, ouais, moi je prie le Seigneur, je lis tous les jours la Bible. Alors je suis désolé pour ceux qui sont d'entre nous qui sont plus avancés, mais je crois que nous sommes encore des enfants, parce que le plus grand d'entre nous, le plus fort d'entre nous, celui qui a le plus de connaissances, mais il a encore à apprendre. Chaque membre du corps a une fonction indispensable, nécessaire. Alors c'est vrai que l'on nous dit régulièrement, et je le pense aussi, que le retour du Seigneur est proche. Alors on ne sait pas quand, hein, mais de toute façon, chaque jour, on s'en rapproche, hein, ça c'est certain. On ne peut pas en être plus proche. Demain, on en sera encore plus proche. Il arrive quand ? Ça, il faut être prêt. Ce qu'il nous faut, c'est qu'on prenne de la nourriture solide pour être actif. Si vous dites « je suis chrétien » et que vous n'avez pas ressenti le besoin de pourvoir aux besoins des autres, vous n'êtes pas accompli. Ça doit être, quand on reçoit Jésus, ça doit être en nous. Ça doit être naturel. Sinon, c'est qu'il nous manque quelque chose, il faut que l'on le cherche. Alors, chaque membre de ce corps, on en a déjà parlé, a un ou des dons. Ces dons, ce n'est pas pour les utiliser pour soi, pour ses besoins, c'est pour les besoins de l'Église. Je peux vous dire que, il y a quelque temps, je faisais chaque matin une prière que je vais partager avec vous. Cette prière, c'était « Seigneur, aide-moi à reconnaître les talents que tu m'as donné. Seigneur, aide-moi à les développer. Seigneur, donne-moi la sagesse par le Saint-Esprit, afin que, Seigneur, j'utilise mes dons pour ta plus grande gloire, en Jésus-Christ mon Sauveur. Amen. » Que cette prière soit aussi la vôtre. Je vais en rajouter une. Seigneur, révèle en nous les besoins. Révèle en nous le besoin de subvenir aux besoins, quels qu'ils soient, des indigents, afin de les amener à toi. C'est notre ultime tâche, c'est notre charge aujourd'hui. Amen. Alors quand je parle des indigents, pour moi c'est tous ceux qui n'ont pas le Seigneur. Ce n'est pas ceux qui manquent de bien, c'est ceux qui n'ont pas le Seigneur. Ce sont des indigents. Et on doit se tourner vers eux. C'est le Seigneur qui nous le demande. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voilà ce que j'ai ressenti. Voilà. Que le Seigneur touche vos cœurs. Demandez-lui ce que l'on doit faire. Demandez-lui comment on doit avancer. Je pense que ça peut être notre sujet de prière important parce qu'il ne faut pas que l'on se ratatine, qu'on se recroqueville. Il faut qu'on soit comme... c'est le printemps, il y a des fleurs qui sont en bouton et ces fleurs vont éclore. Et c'est ce que le Seigneur veut. Il veut que l'Église ne reste pas un bouton, mais devienne une fleur odorante. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen. Merci Marc pour ce partage. Alors je vais court parce que vu l'heure qu'il est, je ne vais pas m'étaler. Hein. Je vais donner une petite anecdote. Ma mère me donnait des cours de grammaire que je comprenais très bien. Et puis quand il fallait les appliquer, je les avais oubliés. Un grand désespoir de ma mère. Les S. Hein. Et puis après, quand on écrivait, il n'y avait plus de S. Oui, il y en avait de partout. Alors, nous ne bardons pas à lire la parole, mais mettons-la en pratique. Amen. Je vous ai dit que je donnerai des nouvelles de notre frère Moïse. Donc, la dernière fois que je l'ai j'ai pu le visiter, et il peut communiquer maintenant carrément avec sa tête, à dire oui ou non. Donc, c'est vraiment plus facile. Voilà. Donc, continuons à prier pour lui. Mais j'ai eu le temps de discuter aussi avec les médecins, et il est en bonne voie. Voilà, il est suivi par plusieurs médecins et par deux hôpitaux en même temps. Et Dieu fait grâce et lui donne des moyens qui n'étaient pas prévus, mais qu'il a le droit. Donc Dieu est bon. Alléluia. Je vais rendre gloire aussi, on a parlé des besoins. Hein. Donc je pense que certains ont aussi soutiennent l'Église parce qu'elle a aussi des besoins. Hein, parce que nous soutenons donc des missionnaires, il faut aussi payer la facture d'eau, d'électricité, des taxes diverses et variées. Et moi, je vais rendre gloire à Dieu de ce que le Seigneur a mis sur vos cœurs et que la fidélité des frères et sœurs. Et que nous ayons vraiment cette sagesse infinie de les gérer correctement. Amen. Et bien, merci Seigneur pour tous mes frères et sœurs qui ont donné. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur pour ta présence. Merci de ce que tu nous as fait du bien. Raccompagne tes bien-aimés dans leur maison. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Amen. Je vous rappelle si vous voulez discuter, c'est dans l'église. Sinon, les attroupements à l'extérieur sont interdits. Okay? Donc si vous voulez discuter, restez dans l'église. Sinon, repartez dans la paix du Seigneur. Amen. Bon dimanche.